Il y a certains états mentaux qui souvent peuvent être assez présents dans les deux premiers jours d'une retraite. Et souvent les jours avant, après, ça n'a rien à voir avec la retraite, en fait. Mais parfois, ça peut être plus présent dans les premiers jours de la retraite. Alors je voulais les nommer. Ils sont connus sous le nom un peu classique là, des 5 empêchements. Peut-être que ça vous dit quelque chose, là, cette liste. C'est des états intérieurs qui sont affligeants qui nous visitent dans la vie. Je vais les nommer. En les nommant, vous verrez si vous remarquez quelque chose de votre quotidien ou non. Si c'est le cas, c'est très naturel, très naturel. Alors allons-y. Donc, un des états affligeants peut être l'aversion. J'ai entendu quelqu'un nommer aujourd'hui dans un des groupes, par exemple, l'agacement. Alors, ce serait une des formes de ça. Irritation, peut-être. J'ai entendu aussi le mot abattement. Alors, peut-être que ça pourrait entrer là-dedans. Et donc, l'aversion, c'est une façon de rejeter ce qui est là. Surtout, ça arrive quand les choses sont désagréables ou pas comme on veut. Alors, l'aversion, ça peut être la haine, la colère. Ça pourrait être la peur aussi, plus une forme implosive. Alors ça fait partie de la vie sur le coussin ou la chaise, ou la vie de la retraite, mais aussi la vie des relations, du travail, du rapport au monde. Alors, il y a ça. Puis, il y a son... un peu, je ne sais pas si c'est son opposé, mais quelque chose, d'ailleurs, qui vient souvent avec, c'est le désir de ceci ou cela. Alors, donc, un empêchement, hein, ce qui nous empêche d'être véritablement présent à ce qui est, c'est l'idée que ça ne devrait pas être, que je déteste, que je ne veux pas. Ou que quelque chose d'autre serait beaucoup mieux. Alors, j'arrive difficilement à être au contact de ce qui est parce qu'autre chose serait tellement mieux. Donc, cette forme peut-être d'illusion, de séduction, quand on est sous l'emprise du désir d'autre chose, il n'y a plus cette disponibilité-là à ce qui est tout à coup. Donc, il y a l'aversion, le désir avide ou avidité. Après, il y a l'esprit qui est amorphe. Rencontré ou non? Et donc, ça, c'est l'esprit qui a de la difficulté à entrer au contact avec les choses parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas l'énergie minimale. Juste assez d'énergie, ça sent beaucoup trop déjà. Alors, il n'y a pas cette énergie minimale et donc, on n'arrive pas à être au contact de quelque chose. Ou son opposé, l'agitation. Alors là, c'est comme s'il y avait trop d'énergie, soit dans le corps, soit dans l'esprit, et ça va dans tous les sens, et on n'arrive pas non plus à entrer en lien avec les choses, parce que l'esprit est agité, va dans tous les sens, est dispersé, éparpillé, etc. Et le cinquième de cette liste horrible, c'est le doute. Alors, peut-être le plus insidieux de tous, le plus difficile à reconnaître, peut-être. Alors, le doute, c'est pourquoi, le sens que j'y arriverai pas, que ça sert à rien de toute façon. Puis peut-être qu'ici, je dirais deux formes de doute. Il y a une forme de doute, en fait, qui est très sain. Et c'est peut-être possible de passer d'un à l'autre. Ça serait une belle exploration. Alors, il y a une sorte de doute qui est... Ah, je ne sais pas, dans ce cas-ci, par exemple, qu'est-ce que dit Pascal Allons voir si c'est vrai. Je ne suis pas certain que ça fonctionne comme ça, ou que, voilà, que les choses sont impermanentes. Attends un peu, attends un peu. Là-dedans, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de l'énergie. Hein? Alors, c'est un doute très sain parce qu'il est énergisant. Il peut amener la curiosité, le goût de voir pour soi-même, d'aller clarifier les choses. Alors que le doute, qui est un empêchement, c'est celui qui est débilitant, qui est paralysant, qui fait que tout à coup, il n'y a plus rien qui avance. Je crois que c'est Yann Martel dans La vie de Pi qui dit, ou à quelque part en tout cas, qui dit, il me semble que j'ai entendu ça être cité, qui dit le doute, le véhicule parfait pour l'immobilité. Alors, si on veut aller nulle part, le doute, c'est parfait. On reste sur place. Et donc, ces empêchements... Alors, il y a une série de très belles images. Je pense que ça vient de Bouddha Gosa, il y a plusieurs centaines d'années, un millier d'années au moins. Si ce n'est pas du Bouddha, non, je pense que c'est Bouddha Gosa qui parle de ces... Peut-être que vous avez entendu ces images, mais ça peut être une belle façon, le pédagogique, de se rappeler de ça un peu. Et donc, on s'imagine au bord d'un étang, pour voir, soit l'image qui est utilisée parfois, c'est pour voir sa propre réflexion, ou plutôt un joyau qui serait au fond de l'eau. Et quand il y a l'aversion, c'est comme s'il y avait beaucoup de vent, et l'eau fait comme ci, comme ça, et on n'arrive plus à voir, là, on n'arrive plus à voir clairement au fond de l'eau. Alors ça, c'est la haine, l'aversion, la résistance, le rejet, le jugement, etc. Pour le désir, l'image qui est utilisée, c'est comme s'il y avait, on avait mis des couleurs, du colorant alimentaire. Et là, il y a toutes sortes de couleurs. Tu sais, on est omnubilé par le jeu des couleurs, puis on n'arrive plus à voir le joyau au fond de l'eau. Après, pour... ouais, je me suis lancé, j'aurais dû... J'ai pas pensé plus loin que le bout de mon nez. Alors, ah non, ça, c'est l'agitation. Ah oui, OK, bon, c'est raté. Alors, il y en a peut-être qui connaissent les images. On dit, non, tu t'en vas dans la mauvaise direction. Ah non, tu vas frapper un mur. Tu vas te noyer. Alors, la version, en fait, c'est l'eau qui boue. Hein, c'est ça. C'est l'eau qui boue. Et l'agitation, c'est plutôt le vent là, qui nous empêche de voir. Ensuite, il y a l'esprit amorphe. Si on pourrait s'imaginer que l'esprit amorphe, c'est comme s'il y avait des algues au fond de l'eau, soit qui cachent ou qui nous empêchent même de nager si on était dans l'étang. Et le doute, c'est comme s'il y avait un peu cette eau brunâtre là, qui fait qu'on ne peut plus voir rien. On est confus, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui va mener où, etc. Alors voilà, ce sont les images. Et comme vous le savez peut-être, ce n'est pas nécessaire que ce soit des empêchements. Ça peut devenir des portails. J'aime bien cette image là, du portail. Et donc, quand on est ici, dans cette salle ou dans la marche, puis que tout à coup, il y a ce « Ah, j'aimerais ça être ailleurs », on peut être facilement dupe de ce désir avide. Ou on peut être facilement pris, croire, adhérer au message ou à ce qui est présenté. C'est très naturel que ça ait lieu. Et on pourrait aussi dire, ah non, il ne faut pas que je sois bouddhiste, il ne faut pas que j'aie de désir, etc. Alors, il ne faut pas. Et là, on se mettra à lutter contre, se débattre, juger, etc. Et nous, on essaie d'aller plus avec la pleine conscience sur la voie du milieu, d'emprunter la voie du milieu, qui est plutôt comme un petit fil de fer là, sur lequel on essaie d'être en équilibre, et donc d'être conscient de la présence de... Ah oui, marcher en voulant ne plus marcher jamais, c'est ressenti comme ça. Ah oui, c'est comme ça, voici comment c'est vécu, quel effet ça a sur l'expérience. Même chose avec l'aversion. Plutôt que « Ah, ça ne devrait pas être comme ça, je ne sais pas quoi, ceci, cela », de devenir conscient, consciente de ce qui est en jeu, de ce qui est en opération, de ce qui est vivant en soi, de l'état actuel. Et donc, bon, si je retourne aux instructions du Bouddha, dans le Satipatthana Sutta, si vous le connaissez, c'est vraiment remarquable comment les instructions autour des états mentaux. Le Bouddha, c'est d'une simplicité incroyable. Hein? Alors, c'est quelque chose comme quand l'esprit est agité, sache qu'il est agité. Quand l'esprit est unifié ou concentré, sache qu'il est unifié ou concentré. C'est pas quand l'esprit est agité, ah non, quand même, il ne devrait pas être agité, parce qu'il n'y a pas de ça. Quand l'esprit est agité, sache que l'esprit est agité. Il y a quelque chose aussi comme connaît l'apparition de l'agitation, la disparition du doute, ou de l'avidité, ou de la réactivité, ou de l'aversion. Alors sache, connaît l'apparition, la disparition. Connaît la présence, connaît l'absence. Après, là, qu'il se soit passé quelque chose dans la tâche méditative ou dans la chambre, puis que là, tout à coup, on voit, ah oui, c'est déjà la pente descendante. C'est pas comme ça qu'on fait. Ah oui, je suis de l'autre côté. Ou de la honte. J'aurais pas dû, cette autre forme d'aversion, aversion tournée vers soi-même. Donc, ça... Oui, c'est ça, le portail, c'est cette pleine conscience, cette voie du milieu où on s'intéresse à ce phénomène. Tout à coup, ça devient, plutôt que d'être dupe ou de rejeter, c'est de s'intéresser au phénomène qui est apparu. Et donc, ah oui, quelle chance, quelle chance. Alors, on parlait de ça aujourd'hui aussi dans un groupe, je me permets, parce que je pense que c'est bien d'utiliser des images locales, des choses qui se passent ici, tout en préservant l'anonymat, évidemment. Mais quelqu'un disait, le rapportait d'ailleurs très très bien, marchant dans le bois, sentant cette avidité de vouloir voir, je ne sais pas quoi, un autre oiseau, un faisan, une biche, quelque chose, un yak. On pourrait penser ici qu'on ne venait pas voir des yaks, justement, Thomas Tibetain. Et donc, et de reconnaître ça, que c'est ça. Ah oui, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix, il n'y a pas que la rencontre avec les choses telles qu'elles sont, il y a en vouloir plus, un petit peu plus autre chose. Et donc, ça, c'est une chance là, quand ça se présente. Parce que ça nous permet ici, dans cet espace de silence et de recherche, d'aller toucher à ça, de « Ah oui, voici ce qui habite un être humain. » On élargit un petit peu, hein, c'est pas juste à propos de moi. C'est « Voici ce qui habite les êtres humains. Voici ce qui habite les institutions. Voici ce qui habite les nations, les pays. Voici... Ah là, j'ai un bel exemple de ça, là, vivant. » Et donc, la chance de découvrir ça. Alors, les empêchements n'en sont pas. Ou possiblement peuvent ne pas en être. Et donc, il s'agit de toujours la même chose. Être attentif, curieux. Donc, cette capacité peut-être de reconnaître ce qui se passe, c'est pas facile. Hein? On va être facilement emporté pendant un moment ou sous l'emprise de, avant de, on pourrait appeler ça questionner. Qu'est-ce que c'est? Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Mais cette question, c'est... J'aime beaucoup quand ma collègue Anouchka, je l'ai entendue une fois, moi je l'ai répété peut-être 150 fois depuis. Donc, je ne sais pas si c'est ses paroles ou les miennes à ce point-ci. c'est ça. Donc il y a cette question, qu'est-ce que c'est et ce qui répond, attention, ce qui répond à la question, c'est le silence, c'est la présence, c'est l'attention. Ce n'est pas le discours, ce n'est pas l'analyse, ce n'est pas le discursif. Ce qui répond à la question, c'est le ressenti, cette présence attentive. Ah oui, comment c'est que d'être apeuré, tiens? Comment c'est? Et là, puisque j'ai parlé un peu de déconstruction, Je trouve que ce serait intéressant de déconstruire un état mental, d'aller voir qu'une émotion est-elle fait d'eux. Une syntaxe qui était correcte à quelque part, mais elle n'était pas disponible juste là maintenant. Alors, de quoi est fait une émotion? De quoi est fait un état d'esprit, un état d'âme? De quoi est fait le... Alors ça peut être... ici, on a la chance, là, peut-être, de découvrir certains aspects de ce qui nous habite, de l'impatience, du calme, de la joie, de la gratitude, de l'ambivalence, de la honte, de l'abattement, de l'accablement, de l'arrogance, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, de quoi c'est fait? Alors là, il y a un petit une division, une déconstruction particulière qui me semble utile, qui me semble révéler des choses, qui est intéressante. Il y a plusieurs façons de diviser un moment d'existence, une expérience, que ce soit une émotion ou un moment. On pourrait dire, il y a ce qu'il y a à l'intérieur, il y a ce qu'il y a à l'extérieur. On pourrait dire, il y a le physique, il y a le mental. Me suivez-vous un peu? Une façon de déconstruire. Et le Bouddha, je crois qu'on pense que c'est lui qui a inventé cette façon-là de déconstruire, qui est dans un sens arbitraire. On peut déconstruire les choses de toutes sortes de façons. Et il y en a une façon avec laquelle il revient souvent. Donc déjà, moi, ça m'intéresse, parce que pourquoi il a parlé de ça des centaines de fois? Ça m'intéresse. Pourquoi il a choisi ce découpage-là de l'expérience plutôt qu'un autre? En fait, il en a utilisé plusieurs, mais celui-là, il revient vraiment très souvent. Avant de parler de celui-là, je vais parler d'un autre, juste pour nous montrer que... Il y a une affaire de suspense, mais le suspense, c'est pas intentionnel. C'est que ça paraît... C'est l'esprit arborescent. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis prêt avec aussi, pas que vous. Moi aussi, je suis prêt avec. Non, mais c'est pour montrer un peu l'idée du découpage, qu'il y a un aspect arbitraire, mais utile. Alors, il y a un découpage qui est très bouddhiste, on pourrait dire, là, qui est utilisé par le Bouddha, qui est très fort. Même, j'avais pensé cette semaine, je me disais, on pourrait explorer ça, cette division-là de l'expérience, parce que c'est très abordable. Je pense qu'on peut bien travailler avec ça. Mais... je pense que je suis en train de choisir d'aller vers un autre qui est plus difficile. En partie, c'est la faute de Gilles. Non, je blague. Parce que Gilles, dans la voiture en venant, me dit qu'il y avait un intérêt pour cette division, que je ne touche pas encore, hein, vous avez remarqué. Je l'évite. Je pense qu'il y a une richesse là-dedans, que ça vaut la peine de se lancer un peu, même si on ne règle pas tout cette semaine. Mais juste pour en montrer une autre, le Bouddha souvent fait une division des choses en six. Et il dit, et ça moi j'ai entendu Joseph, mon enseignant, revenir avec ça très souvent, ça revient souvent dans les textes aussi, une division en six, qui est très simple, c'est les six sens. Donc dans le bouddhisme, il y a les cinq sens qu'on connaît, je me risquerai pas à essayer de les nommer les six. Les cinq, je risque d'en oublier un. Non, je suis capable, je peux. La vision, l'olfaction, la gustation, l'audition, le toucher. Et l'autre, c'est l'esprit, le cœur, quelque chose comme ça, la psyché. Alors, dans le bouddhisme, c'est une des divisions. On dit, tiens, il se passe seulement une chose sur six à chaque moment. Alors, soit on est en train de goûter à quelque chose, d'entendre quelque chose, de sentir quelque chose dans le corps, ou d'être au contact d'une émotion, d'une idée. Donc, c'est une division en six. Et on peut faire toute la marche, juste comme ça, ou l'assise, ou etc. Mais moi, aujourd'hui, pour diviser, pour aller explorer l'émotion, je vais prendre une autre façon de diviser les choses. Là, j'ai un petit doute. Je me dis, est-ce que j'avais vraiment besoin d'aller vers les six ou pas? Bon. Donc, la division est en cinq, celle-là. est un petit peu moins évidente, mais tellement riche, tellement riche. Est-ce que ça vous tente qu'on y aille? C'est un peu rhétorique. Est-ce que je peux vraiment me positionner? On est en silence. T'as déjà décidé, on dirait. Et donc, oui, pensons-y comme ça, une émotion. De quoi c'est fait? Allons voir ça. Alors, il y a un aspect qu'on a déjà nommé beaucoup, beaucoup ici depuis qu'on est arrivé. C'est l'aspect physique des choses, le corps, l'aspect matériel des choses. Et donc, est-ce qu'on reconnaît ça que parfois, peut-être pas toutes, mais certaines émotions sont ressenties dans le corps, hein? La mâchoire qui se serre, ou le cœur, ou la gorge, ou le ventre. On se sent paralysé parfois, ou tout à coup, beaucoup d'énergie traverse le corps, hein? Adrénaline, désir de soit se battre, se sauver. Alors, il y a un aspect de l'émotion, qu'il s'agisse d'un empêchement, des empêchements, ou toute autre émotion, qu'elle soit belle, aidante, bénéfique, ou nuisible à son propre bien-être, aux relations, il peut y avoir un aspect. Donc, nous, dans notre pratique ici cette semaine, pourquoi je nomme ça, c'est parce que ça peut vraiment nous intéresser. C'est une façon d'être en lien avec un état mental. Alors, on peut être sous l'emprise de l'état mental. J'y arriverai jamais, je suis une merde, j'ai toujours été une merde. Le monde le voit, tout le monde le perçu déjà. Dès mon arrivée, ils ont vu que j'étais une merde. Et donc, on peut, ça, c'est une façon d'être en lien avec une émotion, avec un état mental. Et on choisit pas, souvent on choisit pas, on est embarqué dans le truc, sous l'emprise de, sous occupation. Et donc, c'est ce qui se passe. L'autre, c'est, j'en peux plus de me détester, il faut que j'arrête de me détester, il faut que je m'aime maintenant, hein. Je m'aime, il faut que je m'aime. Je suis extraordinaire, je suis extraordinaire, je suis extraordinaire. Non, ça marche pas. Et donc, on peut se battre contre ou être sous l'emprise de, et on peut aussi s'intéresser à l'effet, à cet aspect, on va nommer les autres, mais celui dans le corps. Ah, l'expérience du découragement, par exemple, cet abattement. Est-ce que c'est ressenti dans le corps? Peut-être que non, peut-être que je me sens très léger, tout ça. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a quelque chose, soit de... qui m'apparaît comme lourd, qu'une ça a une façon de se manifester dans le corps. Alors ici, ce serait vraiment une très belle pratique là, de s'intéresser aux différents états mentaux. Il y a un moment où on est peut-être impatient dans la file, il y a un moment où pour moi ça va, puis tout à coup, quand là, je suis trop près des cuillères ou des louches, tout à coup, il y a une sorte d'agitation. Là. Je peux sentir là, que il y a quelque chose qui se... dans le corps. Tu veux le dharma? Pose-toi. Ouais. Et donc ça, c'est ça, là, cette pleine conscience, elle est marquée par, elle est caractérisée par son non-jugement. Donc c'est au contraire, elle s'intéresse au phénomène présent. Hein? La vraie pleine conscience, ah, waouh, désir d'atteindre la louche. « Wow, qu'est-ce que c'est cette expérience? Wow, c'est intéressant. » Là, tout à coup, le corps est ressenti d'une autre façon. Hein? Et donc, il y a une curiosité, dans la pleine conscience, il y a une fraîcheur, une candeur que moi, j'apprécie beaucoup. Cette sorte de, presque d'enthousiasme. « Oh, un phénomène incroyable! » L'agitation. « Wow, laisse-moi connaître ça. Comment ça se place dans le corps? Comment ça... » Et donc, on plonge sous nos opinions a priori que ceci ne devrait pas exister, que ce serait mieux de se sentir autre chose, etc. Et on se laisse connaître ceci. Je me souviens, dans une des retraites où j'étais, il y avait un moment, bon, ça faisait plusieurs jours qu'on était là, puis il y avait un moment où la cloche sonnait. Et il y avait ce joli petit, très léger brouhaha. Les gens se mettent en... se lèvent, ça bouge, donc il y a un petit bruit, tout ça. Et moi, j'étais plutôt calme, plutôt... c'était riche. Alors, je sentais pas le besoin de bouger. Alors, je restais là. Puis en plus, c'était très intéressant. Tout à coup, on sentait les corps qui bougent, l'environnement changeait. Là, tout à coup, il y a plein de petits bruits. Et je restais là, c'était bien. Puis il y avait un moment où tout à coup, il y avait une arrogance qui embarquait. Ah, moi, je reste. J'espère qu'il le voit. Quelque chose comme ça qui embarquait. Et là, tout à coup, c'était suivi pour moi par la honte. Bon, horrible, horrible. Pour qui tu te prends, mais etc. Hein? Puis là, il y avait une lutte. Comme, mais qu'est-ce que c'est cette arrogance, etc. Hein? Puis je me souviens d'en avoir parlé à Joseph. Il y a un moment, je disais, Joseph, quand l'assise finit, souvent, c'est excellent comme espace de recherche. Je ne sens pas le besoin de bouger. Mais l'arrogance arrive. Puis Joseph me dit, ah oui, qu'est-ce que tu fais? Finalement, je me tape dessus, ça. Puis même j'avais créé un truc, je m'imaginais un genre de petit personnage avec une hache, une genre de une immense comme ça, puis qui faisait comme ça, pour couper la tête de l'arrogance, tu sais. À ce moment-là, Joseph avait dit, mais pourquoi c'est juste une autre formation mentale. Pourquoi tu t'identifies à cette arrogance? Pourquoi tu t'en fais un problème? C'est seulement une formation mentale. Elle peut être très bien être connue telle qu'elle est. Puis à la fin, il avait dit, d'ailleurs, moi, si j'étais toi, j'utiliserais pas. Ça a l'air très lourd, ton truc. Comme ça, tu pourrais prendre peut-être juste une aiguille d'acupuncture. C'est une ballon, c'est un ballon, c'est vide. Hein? Alors, tu peux faire juste comme ça, arrogance. Tu le nommes, puis c'est tout. Puis tu l'observes, tu sais. Et après, donc, j'étais retourné, évidemment, à la pratique. Puis tout à coup, le gong. Puis là, il y a beaucoup d'intérêt. C'est riche. Et donc, rester un petit peu, le bruit délicieux du mouvement des corps, du changement d'environnement. Puis tout à coup, pouf! Ah, moi, je reste! Et là, tout à coup, hop, il y avait une relation différente. Ah, voilà! Ah, ça prend des conditions très particulières. Et quand ces conditions sont réunies, on dirait qu'à chaque fois, bang, ça vient. Et là, tout à coup, ben, c'est ça. Il y avait juste, tiens, comment c'est senti, entre autres dans le corps. Puis on va aller vers les autres aspects de l'émotion. Mais ce mouvement-là de pleine conscience, avant, il n'y avait pas la pleine conscience. Il y avait l'opinion, la préférence, l'identification. Et dans le processus, merci Joseph, merci, gratitude infinie. Tout à coup, cette possibilité d'un autre rapport au phénomène, à l'état intérieur, plutôt que d'adhérer au message ou d'avoir honte de vivre, s'intéresser à. Puis tout à coup, c'était différent. Ça devenait intéressant. Ne pas adhérer, mais ne pas rejeter non plus. Alors ça, c'est la pleine conscience. Et nous, ici, on a la chance d'explorer ça avec un paquet d'émotions, d'états intérieurs différents. Et donc, un aspect que j'ai nommé, c'est le corps. Comment c'est ressenti hormonalement ou dans l'expérience sensorielle, etc. Il y a un autre aspect d'un état mental, émotion, qui peut être apparent ou non. Hein, des fois, c'est « Ah non, je ne trouve rien dans le corps, par exemple. » L'autre aspect, c'est la tonalité du plaisir ou des plaisirs. Alors, avec chaque expérience vécue, une chose entendue, à laquelle on pense, qui est goûtée, etc., il y a cette légère tonalité, ou parfois très très forte, de plaisir ou de déplaisir, ou de neutralité, l'absence de plaisir ou déplaisir. Alors ça, c'est un champ de quelque chose qui peut nous intéresser pendant toute la journée. Ça a lieu avec les sensations. Là. Une sensation peut être agréable, désagréable, ou ni agréable ni désagréable. C'est seulement l'expansion de la poitrine et son affaissement avec la respiration, peut-être. Je ne sais pas comment c'est vécu par vous, ou à quel moment c'est très variable, c'est changeant. Mais il y a cet aspect-là qui est très important dans les enseignements bouddhiques. C'est important dans les enseignements bouddhiques parce que c'est très important dans nos vies. Hein, si on retirait ça, on ne reconnaîtrait pas l'existence. On dirait, il manque quelque chose. Tu sais. Ça fait partie là, intrinsèque de la nature humaine, de l'expérience humaine, que les choses, il y a des choses qui sont vécues comme agréables, d'autres comme désagréables, puis certaines sont ni l'un ni l'autre, et c'est aussi important. Et là, il y a tout un enseignement là-dessus, même je pense qu'on parlait cette semaine avec Martine Batchelor, puis je pense que son prochain, c'est un de ses sujets de prédilection qui l'intéresse beaucoup, puis sa prochaine retraite qu'elle offre à Terre d'Éveil va être sur ce thème-là. Et beaucoup de gens ont écrit là-dessus, pensé à ça depuis 2600 ans. Et donc ici, on peut s'intéresser à ça, et c'est un aspect d'une émotion, d'une humeur. Alors si, je ne sais pas si je suis de mauvaise humeur, est-ce que ça va être agréable ou désagréable? Ben, ça peut être intéressant d'aller voir. À prime abord, je me dirais que ça doit être désagréable d'être de mauvaise humeur, mais c'est possible qu'il y ait des petites pointes d'agréable. Tu sais. Les gens sont chiants. Puis, ça c'est bien ça, de penser que tout le monde est chiant sauf moi. C'est... Feels good. Alors, comme ça, alors quand il y a une émotion ici, plutôt que d'adhérer ou de rejeter ou de s'identifier ou etc., on s'intéresse à la manifestation dans le corps, si elle est là. Ah oui, est-ce que ça peut être senti? Note mentale, j'en parlais un peu aujourd'hui à John Sumedo avec cette note. Bon, lui, il apprend en anglais, mais on peut la traduire de toutes sortes de façons, mais quand par exemple il dit fear, ah fear, il reconnaît que la peur est présente. Fear feels like this. Ah oui, la peur, c'est comme ceci, la peur. On s'imagine que c'est senti dans le corps, qu'il s'intéresse à la manifestation dans le corps. On peut s'intéresser aussi au fait que c'est agréable ou désagréable. Alors voilà, il se passe quelque chose, une situation, je me retrouve à me sentir, je sais pas, moi je me sens comme de la merde. Alors tiens, sentir comme de la merde. Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Et donc, c'est ce mouvement-là de curiosité, cette sorte de candeur, comme si on n'avait jamais vécu cette émotion. Ah oui, ah tiens, le regret. Et peut-être que ça disparaît au moment où on le nomme. Des fois, souvent, les émotions sont... Au moment où on tourne un peu, on met l'éclairage dessus, ça disparaît. Mais parfois, non, ça demeure. Ah oui. Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Là, on peut sentir un peu comme ça. On est touché en joie à entendre, je ne sais pas, les oiseaux. Ah tiens, l'appréciation, la joie. Où est-ce que c'est connu? Ah, peut-être ici. Je ne sais pas comment ça peut apparaître. Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Ah, ça, c'est agréable. On peut s'intéresser à ceci. Alors, c'est un autre aspect de l'expérience. Dans ma division enceinte. Bon, ça va jusque-là, non? Ça va bientôt se compliquer un petit peu. Alors, un autre aspect qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que là, j'ai choisi cette division enceinte, parce que je trouve que là, c'est très, très riche, le corps. Puis je vais revenir sur ces aspects-là de l'expérience. C'est un peu comme des rivières, j'aurais envie de dire. Ouais, j'utiliserais cette image. Le Bouddha en a d'autres, mais c'est un peu comme des rivières, hein? Comme ce qu'on appelle le corps, là, ou la matérialité, le monde. C'est comme une rivière dans notre expérience, parce que là, par exemple, c'est ressenti comme ça. Puis tout à coup, ça va être ressenti plus durement, peut-être. Puis oups, tout à coup, ça va être allongé, vertical. Puis oups, tout à coup, ce qui était un petit tas de terre, ça va être quelque chose qui va être en mouvement. Hein? Ça va être plus de l'air, comme ça. Puis là, on va sortir dehors, ça va être froid. Alors, ce qu'on appelle le corps, puis que le Bouddha veut nous inciter, il veut nous inviter à s'approcher de cette expérience-là pour découvrir que ce n'est pas le corps solide comme on le conçoit, c'est mon corps, hein? Ça fait déjà quelques décennies que je suis là avec mon corps solide, permanent. Plus on s'intéresse au corps ou à l'expérience physique des choses, plus on va découvrir que c'est constamment changeant. Ça picote, ça presse, ça pulse. Oups, ça s'allonge, ça s'étend. C'est lourd, ça presse là, ici, là, là, là. Ou des fois, ça presse juste là. C'est constamment changeant. Tout à coup, ça a faim. C'est ça, comme ça. C'est senti comme ça, ici. Ça gargouille comme ça, ça bouge comme ça. Puis tout à coup, c'est plein. Ça en a pris un petit peu trop. Et là, tout à coup, ça devient digestif. Et c'est comme ça. Ou quelque chose est dit, puis on est blessé par ce qui est dit. Ou... Puis, oups, tout à coup, tout se ferme, se contracte. Et donc, c'est pour ça que j'utilise l'image de la rivière. C'est une rivière. Le Bouddha, lui, en parle de cet aspect-là de notre expérience. Dans les émotions ou à n'importe quel moment, quand on est un être humain, on est incarné. Ça veut dire qu'il va y avoir un aspect physique à l'affaire. Le Bouddha compare ça à l'écume ou à la mousse au bord de la rivière. Et il dit quelque chose comme, imaginons-nous une personne, il doit enseigner pas très loin du Gange, là, quand il parle de ça, il dit, imaginons-nous quelqu'un qui va au bord du Gange et qui voit de l'écume. Cette personne, si elle s'approche de l'écume, si elle l'observe bien, si elle s'y intéresse, si elle devient curieuse de l'écume, si elle l'apprend, si elle en fait l'expérience, elle va sûrement découvrir que c'est éphémère, c'est passager, c'est changeant, c'est vide en son sens, en son centre. Hein? Que c'est la même chose avec le corps. Sûrement une personne qui s'en approche, qui s'y intéresse, va découvrir que c'est comme l'écume, changeant, éphémère, intermittent même. Le corps apparaît et disparaît. Hein? Si on pense à quelque chose qu'on oubliait de faire avant de partir, tout à coup, le corps est disparu pendant quelques secondes. Il y a juste ces images-là. Puis un moment, oups, on s'aperçoit, ah, je suis ici, ah, je le sens, mon cœur s'est serré. Pour la tonalité du ressenti, ce plaisir, des plaisirs qui fait partie de chacune des expériences qu'on a, le Bouddha utilise l'image de la bulle. Alors il dit, de la même façon, il dit, ah, ben sûrement quelqu'un qui, à l'automne, quand il pleut, s'approcherait d'une flaque d'eau quand les gouttes de pluie tombent et regarderait à la surface de l'eau, sûrement cette personne verrait de petites bulles apparaître quand les gouttes tombent. Et sûrement, si cette personne restait au contact, restait intéressée, s'approchait, observait, analysait, ou interrogeait, ou il y a une série de verbes qu'il utilise, là, sûrement cette personne-là découvrirait qu'il n'y a rien là-dedans, que c'est vide, ces petites bulles éclatent aussi vite. De la même façon, sûrement, une personne qui s'intéresserait à la tonalité du ressenti, qui s'en approcherait, qui l'étudierait, qui l'observerait avec pleine conscience, découvrirait que c'est des bulles, que le plaisir apparaît avec le goût, puis oups, passe avec le goût qui disparaît, que l'idée déplaisante arrive et passe. Sûrement, une personne découvrirait la nature éphémère, éminemment instable, changeante de ce plaisir, de ce déplaisir. Et moi, j'ajoute, sûrement que cette personne arrêterait de mettre tous ses œufs dans le même panier, découvrant la nature instable et changeante des plaisirs, arrêterait d'en faire sa valeur principale dans la vie, que ce soit confortable, agréable, sécurisant, comme jeu de désir. Sûrement, cette personne qui verrait à quel point c'est changeant relâcherait de la saisie, de l'obsession, de la fascination, de l'investissement dans le plaisir. Et donc, je retourne à nos émotions, nos états d'âme, humeur. Alors, il y a un aspect qui peut nous intéresser, c'est ce plaisir des plaisirs. Il y en a un autre, plus subtil. Mais on est capable d'en prendre. On aime ça, on en veut un peu plus. Alors là, le Bouddha utilise l'image du mirage. Quand il utilise cette image, c'est pour parler des perceptions, comment les choses apparaissent. Là, moi, je trouve que c'est très intéressant en termes d'émotion. Hein? Au moment du désir avide, quand on voit apparaître les informations sur l'Internet sur la retraite, ça nous apparaît comme une très bonne idée. Hein? Les perceptions sont altérées de telle sorte que c'est vraiment une bonne idée d'aller là, je veux y aller, est-ce que je vais avoir une place, est-ce qu'il va rester une place pour moi, etc. J'ai tellement hâte. Et dans un autre état d'esprit, tout à coup, la même retraite peut apparaître différemment. Dans l'aversion, une très mauvaise idée. Dans le doute, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Et donc, ça, les choses apparaissent différemment. Et ça, c'est quel lieu de recherche incroyable. Ah ben là, on en a pour quelques années. Là, il y a du jus et de la matière. Les perceptions, le jeu des perceptions. Et c'est ça, le Bouddha dit, j'imagine une personne en été, quand il fait très très chaud, une personne qui, tout à coup, je ne sais pas, sur la chaussée, il y a 2600 ans, est-ce qu'il y avait l'asphalte? Sur la chaussée au loin, verrait une flaque d'eau. Dans la chaleur, quand l'élément de l'eau est disparu de partout, et tout à coup, on verrait une tache d'huile. Sûrement, cette personne, si elle s'approchait et s'intéressait à ce phénomène, si elle s'approchait, elle pourrait voir que c'est un mirage, qu'en fait, il n'y a pas de tache d'eau ou de tache d'huile, hein? Que c'est une apparition, une apparence. Alors sûrement, cette personne découvrirait ça pour elle-même, elle pourrait clarifier les choses. Ah, c'est un mirage. De la même façon, sûrement qu'une personne qui s'intéresserait aux perceptions, à la façon dont les choses sont perçues, conçues, interprétées, en s'approchant de ceci, pourrait découvrir que les choses apparaissent d'une certaine façon, mais que c'est vide dans son centre. Et de la même façon, sous l'effet d'une émotion, la haine, l'autre apparaît comme un ennemi, peut-être. Et de l'autre côté de la haine, ou de l'autre côté du désir, l'autre personne soit apparaît moins désirable qu'elle n'avait l'air au moment d'entrer en contact avec elle sur Tinder. L'âme sœur. Bon, si on n'a pas besoin de Tinder, ici, juste nous, c'est assez. On swipe d'un côté de l'autre. Ami, etc. Et donc, c'est ça, sous l'effet du désir, quelque chose va apparaître comme éminemment satisfaisant. Et est-ce qu'on a vu ça, quelquefois, dans notre vie, que de l'autre côté du désir, tout à coup, cette allure, apparition, mirage, se résorbe ou s'effondre, selon. Puis qu'on voit que, là, tout à coup, il n'y a pas, je plaque pas quelque chose. Ah, c'était pas dans la chose, c'était plutôt projeté sur la chose. Hein? Alors, c'est le jeu des perceptions. Et ça fait partie de notre expérience, puis ça fait partie des émotions. Je pense qu'il y a Charles Genoux qui avait dit quelque chose. Je crois que c'est Charles. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois en ce moment. Ça m'apparaît comme ça, que c'est Charles qui avait dit que les émotions, c'est un peu l'opposé d'un caméléon. Un caméléon prend les couleurs de son environnement. Et l'émotion, elle, donne des couleurs à l'environnement, prête des couleurs à l'environnement. Suivez-vous un peu? Alors, dans le découragement, le futur apparaît comme bleak, comme sans espoir. Le passé même, dans le découragement, il n'y a rien qui a jamais marché pour moi, rien qui va jamais marcher pour moi. L'autre, soi-même. Alors il y a ce jeu des perceptions, comment les choses nous apparaissent. Et donc, nous, on peut s'intéresser à ça ici cette semaine. On n'est pas trop occupé, il n'y a pas trop de choses à faire sur la liste. De telle sorte qu'on dégage un peu de temps, d'espace, pour pouvoir voir, peut-être découvrir pour soi-même ce jeu des perceptions. Comment l'esprit projette sur les choses selon son état intérieur, sur les autres, soi-même, le passé, le futur. Le passé, c'est étonnant, non? Puis on le voit en retraite. Je me souviens une fois où je n'étais pas en train de penser à quelque chose. C'est ça qui est étonnant aussi dans comment ces insights, compréhensions qui peuvent être, on en parlait aujourd'hui dans un groupe, qui peuvent être de nature universelle sur la nature donc impermanente des choses, par exemple, mais aussi une compréhension peut-être de notre propre histoire ou de comment on fonctionne, etc. Et je me souviens, je ne sais pas dans quelle posture j'étais, ce n'est pas important, mais je me souviens qu'il y a un moment où j'étais, je tentais de pratiquer très simplement, comme ça, la présence, au son, au pas, ou à la respiration, au corps assis. Je ne sais pas comment ça s'est joué un peu, mais il y a eu une ouverture par rapport à un événement qui s'était passé dans le passé, puis où il y avait une sorte de... Je ne saurais pas le définir. Je vais essayer avec ce mot-là, mais une sorte de déni ou de manque de considération ou de... Il y avait eu ça pendant une ou peut-être quelques décennies. Hein. Oui, ces choses-là arrivent, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis tout à coup, il y a eu une ouverture qui était pleine de compassion. Il y avait quelque chose... Ah! Ça a été dur. Cette période-là a été très difficile. Très difficile pour toi, Pascal. Et là, il y avait une tendresse qui n'avait jamais été là avant. Donc, il y avait un changement de perception du passé. Comme, c'est pas important, ça arrive, on tasse. Puis là, non, en fait, c'est important ce qui s'est passé. Et ça a été difficile. Et là, un autre rapport, une autre perception du passé. Même. On pourrait dire, ben non, le passé est passé, il reste comme ça. Non, parce que des fois, hein, quelque chose a l'air... Puis déjà... Quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, ou quelques années plus tard, on peut en rire un peu, ou regarder les choses un peu différemment. Et donc, on vit dans un monde aussi changeant, aussi instable, aussi impermanent, aussi éphémère que ça. Que la vision qu'on a de nous-mêmes, comment on se conçoit nous-mêmes, c'est une perception. Le Bouddha va très loin là-dedans. Donc, ce « moi », ce « je » séparé, par exemple, est-ce que c'est factuel? Ou est-ce que c'est conçu, conceptuel, interprété, projeté, perçu, comme ça? C'est ça, la spiritualité va très loin. Le Bouddha va très loin dans son questionnement. Voir, est-ce que cette perception-là d'un « moi » isolé, est-ce que c'est absolument vrai? Ou peut-être pas. Peut-être pas. Et donc, la pratique qu'on fait, nous, c'est pour corriger les fausses perceptions. On prête attention pour aller corriger les fausses perceptions. C'est un processus très long, c'est toute une vie. Très beau, très profond. Et... juste pour parler des perceptions en termes d'humeur, d'émotion, ça peut être un très beau champ de recherche que de s'intéresser à si une émotion qui est très forte ou une humeur qui est présente, juste de voir est-ce que ça altère un peu comment les choses apparaissent, comment la journée apparaît. Hein, dans le découragement, oh, allons marcher. Alors, la marche peut apparaître comme ça. La marche, est-ce qu'elle est vraiment horrible? Ou est-ce qu'elle apparaît comme ça dans un certain état? Et dans un autre état, elle apparaît autrement. Alors là, il y a tout un monde d'études, de recherches. Et des erreurs... Les erreurs de perception habituelles chez les êtres humains. Vous voyez si vous allez reconnaître quelque chose là-dedans. Puis ça parle beaucoup de la pratique. Alors le Bouddha parle de ça, des erreurs de perception très communes. C'est la perception de permanence, de solidité, là où, dans quelque chose qui ne l'est pas. La perception, projection, on pourrait dire, peut-être, de satisfaction. Quelque chose qui n'a pas la capacité de satisfaire. Je me souviens de ça quand j'étais enfant, peut-être vous aussi. Moi, il y avait des catalogues, comme ça, pour tourner les pages, puis j'encerclais des choses. Il y avait plein de choses qui avaient l'air incroyablement satisfaisantes. Ah, comme ça. Joseph appelle ça « catalog consciousness ». On cherche la satisfaction, et on va la plaquer sur quelque chose. Je me souviens, il y avait une époque, il y avait un catalogue de, je sais pas si c'est la redoute ici ou comment ça s'appelle, mais, et j'avais le droit de choisir une chose par page, j'avais 200 pages. Et là, des fois, c'est comme, quelle chose va être satisfaisante, il n'y avait presque rien. Mais, il fallait que je trouve quelque chose, dans la, en tout cas dans la section des jouets, c'est sûr qu'il y avait d'autres sections, c'était impossible pour moi, mais il y avait cette avidité, cette projection, perception de satisfaction. Alors, le Bouddha parle de ça, là. Projection de permanence, de solidité dans quelque chose qui, par nature, ne l'est pas. Projection de satisfaction. Puis en une autre sorte de perception, projection. C'est la perception que quelque chose est mien, ou à moi, ou moi. Oh, là, ça va très loin, cette recherche. Pourtant, ça, je pense que je peux déjà amener le doute si quelqu'un, ou aucun doute là-dessus, que non, les choses peuvent m'appartenir. On pourrait nommer juste, par exemple, ma mémoire, rencontre, une certaine maladie. Puis tout à coup, ma mémoire montre bien qu'elle n'est pas à moi, mais qu'elle est conditionnelle, circonstancielle. Tant qu'il y a ceci, il y a la mémoire. Tout à coup, je ne sais pas, un coup à la tête, un diagnostic. Puis la mémoire montre qu'elle ne m'appartenait pas vraiment, que c'était plutôt circonstanciel. Les conditions étaient réunies pour qu'il y ait la mémoire. Ou un quelconque objet. On pense ça, ça c'est à moi. Ça c'est mon pashmina. Mais quelqu'un le prend et part avec. Ça montre que ce n'était pas à moi de façon absolue, hein, mais de façon peut-être plus conventionnelle. Tant que tout le monde était d'accord, c'était à moi. Mais il suffit que quelqu'un décide que non, puis ce n'est pas à moi. Et donc, ça, ce sont des erreurs de perception très communes chez l'être humain qui créent beaucoup de souffrance pour IL. La notion de permanence. Je m'arrête parce que je pense aux retraites LGBTQ, ou cette... quelque chose là-dedans qui devient très... Oui, qui est très beau, même quelque chose qu'on pensait permanent et solide et non questionnable comme le genre binaire, tout à coup. Ah oh ben non, là, je pars, je quitte, je suis pas à la retraite. Tu t'embarques dans ce truc, dans ce machin, que je comprends rien et que c'est pas vrai. Pourtant, si on médite juste un petit peu, moi je pense que déjà, on peut toucher à ces choses-là. On peut reconnaître que je suis pas toujours un homme ou une femme. Le moment où c'est évanescent, ça disparaît. C'est pas du tout dans le portrait. C'est pas ça. Je suis juste quelqu'un qui essaie d'atteindre une louche. Ou survivre jusqu'à la cloche. Hein? Que le genre, c'est quelque chose qui est absolument changeant. Dans le dharma LGBTQ, le dharma queer, qui est très beau, très riche. Il y a le dharma tibétain, on le voit ici, le dharma zen, et le dharma queer, qui prend naissance, tout ce savoir est en pleine naissance, c'est très très beau. Parfois on dit que les moines, les moniales, le Bouddha sont des personnes trans, hein, qui changent de nom pour honorer qui ils sont vraiment, qui soit se coupent les cheveux, se rasent la tête, ou mettent une robe pour... exprimer de façon honnête ce qu'il découvre. C'est très beau, ça. Donc, cette nature de changement, de plaquer sur quelque chose la permanence, la solidité, puis d'aller voir un peu plus loin pour voir est-ce que c'est changeant ou non. Est-ce que c'est changeant ou non? Et donc, les perceptions, c'est dans cette division en cinq, c'est un champ d'exploration particulier. Et donc, si je reviens, je repasse sur les trois. Peut-être que je vais m'arrêter à trois aujourd'hui. Puis il nous reste quelques jours pour aller voir 4 et 5. Le Bouddha, je pense, en parle beaucoup aussi en termes justement d'appropriation et d'identification dans cette division en 5. Il nous invite à nous intéresser à la nature physique des choses à travers, par exemple, les 4 éléments ou les postures. Les 4 éléments, c'est très, très fort pour ça, pour découvrir qu'en fait, ce n'est pas exactement moi, à moi ou mien, hein. Qu'il y a la dureté, qu'il y a l'expansion, la contraction, mais que ces phénomènes-là sont éphémères et appartiennent vraiment au monde naturel et qu'il y a cette tendance à percevoir mien, à moi, moi. Et c'est beau ça, pour moi là-dedans, il y a quelque chose de vraiment bien, peut-être c'est important de le nommer. Là, on est sur un chemin spirituel, on ne fait pas ça, on n'a pas ces questionnements-là à 5 ans ou même à 12 ans. Hein? Il faut être un adulte constitué. Donc, on se construit, au début, on sort, on est comme ça. Et là, tranquillement, on nous apprend, et c'est important, ça c'est ton nez, ça c'est le nez du parent, ça c'est ton nez, ça c'est comme ça. Puis là, on apprend à faire une différenciation, là, c'est pas tout. Un grand melting pot de couleurs et d'odeurs. Il y a des choses qui... Ah, ça, c'est ton corps, etc. Et on grandit comme ça. Puis on crée un jeu qui se tient, pour lequel on a du respect, peut-être, où il y a toute une guérison possible autour de ça, hein? D'amour de soi, de conscience de ses limites ou les établir pour les autres, etc. Bon, j'en parle peut-être pas très bien, mais on voit un peu. Et là, il y a un moment où c'est bien d'aller à une retraite, puis recommencer à questionner. Ah non, je pensais que j'avais... on était rendu. Mais non, parce que là, on s'en va vers la mort, vers la maladie, on va perdre des choses. Alors là, on s'est construit, puis là, ben, pour se préparer, c'est bien là, de commencer à se préparer, parce que c'est le bon moment, là, quand on est adulte, bien formé, même si on n'a pas tout guéri, c'est bien quand même de commencer à le questionner. Ça me semble quelque chose de juste à faire, de dire, ouais, bon, là, il y avait tout ça, mais là, bientôt, on va s'en aller vers ça. Alors, c'est bien là, de se dire, ah oui, c'est pas exactement moi. On peut relâcher là, de ça. C'est pas exactement moi. Ça, c'est la nature. C'est la nature qui est là. Ça peut être aidant, comme ça. Alors, c'est pour ça que le Bouddha divise en 5 et donne un chapitre, on pourrait dire, au corps. Après, le plaisir des plaisirs, et vu qu'on s'y intéresse, parce que c'est éminemment changeant, instable, incontrôlable, non fiable, et plusieurs d'entre nous, on est très investis là-dedans. Et donc, c'est bien une sorte de maturation, de sagesse, de comprendre que, mon amour, mauvaise nouvelle, on n'arrivera pas à aligner les choses de telle sorte que ça va être que confortable, sécurisant et agréable. Ça se pourra pas, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a les grands vents. Hein. Il y a le vent du plaisir et il y a le vent du déplaisir. Il y a le vent du succès, puis il y a le vent de l'échec. Non, pas ça, je veux juste que ça pousse de ce côté, je veux pas que ça vienne de l'autre. L'échec, il y a le vent des louanges. Ah, oui. Puis il y a le vent des critiques. Et ainsi de suite, comme ça. Et donc, une sorte de maturité, de sagesse, c'est pas dans le contrôle de ces choses-là, mais dans la relation à pouvoir recevoir les louanges sans s'y accrocher, sans les rendre permanentes, ou souffrir de crainte que ça ne le soit pas. La personne me trouve, je ne sais pas, bonne, belle, beau, efficace. Est-ce que ça va continuer au travail? Est-ce que toute l'équipe va continuer de penser ça? Est-ce que le patron, la patronne, est-ce que l'amoureuse, l'amoureux, l'amoureux va continuer à penser ça? Pas sûr. Ou plutôt assez certain que ça risque de changer. parlais à quelqu'un de très cher qui me disait qu'il travaille dans la même organisation depuis, organisme depuis très longtemps et qui a accompli des choses, vraiment de belles choses dans cet organisme. Puis, et qui me disait, mais Pascal, honnêtement, je pense qu'on est évalué aussi bon que ce qu'on a fait dans la dernière année. Le reste, en fait, ils s'en foutent. C'est vraiment la performance de la dernière année. C'est ce qui compte vraiment dans ce monde-là où je suis. Tu sais. Et c'est touchant d'entendre ça. Tu te dis, bon, cette personne s'est dévouée à créer toutes sortes de choses dans cette organisation, mais cette conscience qu'en fait, je vaux juste les derniers mois. C'est ce que je vaux. Et donc, c'est la nature changeante des choses. Il n'y a pas cette stabilité, cette permanence. Et donc, dans le plaisir, le déplaisir, c'est bien de s'approcher de ça. Le Bouddha parle de ça pour qu'on puisse s'intéresser puis qu'on puisse voir l'apparition, la disparition, la présence, l'absence. Et comme ça que... Plutôt que d'essayer de contrôler, que ce soit plus, c'est ce que j'allais dire, je pense, le rapport. Comment être au contact de ce qui est non voulu? Comment être au contact de ce qui est beau, désirable, riche, qui a du sens, sans s'y accrocher? C'est tout un travail, ça, de ne pas s'accrocher à quelque chose qui est précieux. C'est un art, une science, une exploration d'une vie. Mais il y a beaucoup de possibilités là-dedans. Une compréhension profonde de la nature impermanente des choses va favoriser le non-agrippement. Non! On va pouvoir se détendre, savoir que oui, c'est beau, et ça apparaît. Puisque ça apparaît, ça veut dire que ça va disparaître aussi. Ça fait partie de l'affaire. Et du côté des perceptions, le Bouddha en parle, isole cet aspect de notre expérience, je pense, parce qu'on adhère facilement à nos perceptions. On croit à nos perceptions. Et une partie de la libération, de l'éveil, c'est de savoir que ça apparaît comme ceci. Il y a un échange avec le Bouddha où quelqu'un dit « Est-ce que c'est comme ceci, les choses ?» Et le Bouddha dit « Non, c'est pas comme ceci. »« Ah, alors est-ce que c'est comme cela ?»« Non, c'est pas comme cela. » Alors, est-ce que c'est comme ceci, cela? Non, c'est pas comme ceci. En tout cas, ça dure un certain temps. Puis, un moment où le Bouddha dit, quelle que soit la façon dont tu le... Bon, il faut que je traduise du pali. Quelle que soit la façon dont tu le conçoives, quelle que soit la façon dont tu le conçoives... Alors, j'ai tout raté. Quelle que soit la façon dont c'est conçu, par toi, quelle que soit la façon dont tu le conçoives, c'est autrement. Et moi, je trouve que c'est remarquable, ce truc. Donc, c'est conçu. Il y a toujours une sorte de filtre, d'interprétation, d'organisation, de conceptualisation. Le Bouddha, à un autre moment, dit ça. Je suis... ceci est une conception, ceci est conçu, je suis, ceci est conçu, je serai, ceci est conçu, j'étais, ceci est conçu, les conceptions, une excroissance, une flèche, un bouton, comme on dit, oui. Et donc, une partie de l'éveil, ça va être de reconnaître que l'esprit conçoit les choses, organise les choses. C'est très naturel qu'il le fasse. Par exemple, puis peut-être que j'essaie de finir avec ça. Oui, il faudrait. Si vous faites simplement promener votre regard un peu autour, c'est impossible de ne pas concevoir. Alors, les yeux se promènent et on voit porte, fenêtre, Bouddha, Bouddha couché, Pascal. Je ne sais pas comment ça vous apparaît exactement, mais ça fait partie, c'est une des rivières qui coule. Il y a la rivière des sensations, il y a la rivière des plaisirs qui est toujours en train de changer un peu. Puis il y a la rivière des perceptions. Alors les choses sont perçues, sont présentées. S'il n'y avait pas les perceptions, on aurait probablement mal au cœur, parce qu'il y aurait toutes les couleurs. Mais non, quand on regarde comme ça, ça s'organise. Hein? Ça dit Richard, etc. Ça s'organise homme, femme. Il pourrait y avoir erreur de perception, mais on pourrait facilement mégenrer. Le monde s'organise à partir de la mémoire. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ah tiens, ça c'est un chat, ça c'est un chat, voici un autre chat. Et là, on voit quelque chose qui ressemble. Puis on dit, ah ça c'est un chat. Hein? Alors on organise le monde. Êtes-vous d'accord avec moi? Que ça fait partie de... C'est culturel, c'est familial, c'est relié aux expériences passées, mais c'est pas inhérent. Par exemple, quand on regarde ici, on dit, ah ben c'est une cloche, c'est le bol tibétain. Pourtant, je ne sais pas, moi, un chien pourrait rentrer ici, puis regarder, il n'y a rien dans mon bol d'eau. Ou je ne sais pas, où il pourrait se... Je sais, quelqu'un d'un peu plus ludique que nous pourrait arriver, et voilà. Et tout à coup, hein, c'est pas un bol tibétain, c'est ce qu'on en fait, c'est le sens qu'on lui attribue. Hein. Et on le voit d'ailleurs avec ceci, parce que quelqu'un ici pourrait dire, c'est le Bouddha, c'est sacré, etc. Puis quelqu'un pourrait dire, ben non, c'est un bout de bois qui a été sculpté. Ah! Comment oses-tu questionner ma perception de la chose? Hein? Puis je me souviens, il y a quelques années, on avait invité à une retraite Bhikkhu Analayo, qui est très respecté, peut-être certains d'entre vous le connaissez. Je me souviens pas qu'est-ce... On lui a demandé, ah, voulez-vous faire les refuges, un truc que j'ai pas fait ici, mais puis ça inclut peut-être de faire un geste envers la statue du Bouddha. Et lui, tout de suite, il a dit, non, 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 ah non, 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 moi je pratique le bouddhisme, early Buddhism en anglais, c'est le bouddhisme premier ou ancestral, et dit... Le Bouddha disait, non, 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 c'est pas moi, c'est pas, vous tournez pas vers moi, pas de représentation de moi. Il lui disait, non, non, moi je pratique le premier bouddhisme, et dans celui-ci, il n'y a pas de représentation du Bouddha, c'est fais ton travail, moi j'ai fait mon travail, ça me fait plaisir de t'en parler. Les gens disaient, ils ne prenaient pas refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha, et les gens venaient voir le Bouddha et disaient, est-ce que je peux venir avec vous? Puis il disait, viens. Puis c'était la fin de l'histoire. Alors, il dit, je vais pas commencer à... Et c'est intéressant, hein? Donc, les perceptions. Alors, comment on se perçoit soi-même, comment on perçoit l'autre, comment on perçoit un bout de bois, ou une image, une représentation sacrée, et tout ce qui est entre les deux. C'est intéressant, non? On entre dans un monde, là, et là, ben, voyons, tout à coup, tout a du sens. Pourquoi le masque? Bon, je parle de jadis, là, mais le vaccin, pire chose au monde. Oh, ça me le prend. Le masque, quelle connerie. Ben, c'est nécessaire au moins qu'on porte le masque. Ou... Me suivez-vous un peu? C'est les perceptions, hein? Ça apparaît comme la pire chose. La pandémie existe, n'existe pas. Je ne sais pas, c'est quoi l'affaire qui me revient souvent quand je dans une conversation. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'enseigne la méditation. Ah oui, j'adore la spiritualité. Est-ce que tu savais que... Hillary Clinton est un serpent. Quelque chose, il y a un truc là, sur les reptiliens, truc machin. Ah non, je ne savais pas, si tu me l'apprends. Oui, oui, c'est vrai. OK. Alors, c'est ça, on vit dans un monde hein, où les perceptions s'entrechoquent. Et donc, on pourrait choisir n'importe quel sujet un peu chargé, la politique. Et puis, on pourrait... Non, je pense que nous, on est tous à gauche. Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'est ça, ça fait un monde que c'est difficile de naviguer, ce monde-là. Ça prend beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute. Qu'est-ce qui est quoi? Comment les choses sont perçues? Et donc, une perception à corriger, des perceptions à corriger, c'est la perception de solidité, de permanence, que les choses sont comme ça. Non, je vais être perçu différemment par différentes personnes. Bon. Je lance ça un peu. Merci pour votre écoute. Prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper un peu. qu'on puisse voir par soi-même de quoi il en retourne, qu'on puisse voir par soi-même la nature des choses, que ce soit libérateur, que ce soit aidant, que ça nous aide à vivre, à être en relation, que ce soit pour notre bienfait, notre bénéfice et celui de tous les êtres. Ok, merci beaucoup pour votre considération. Merci et bon appétit.